RCF. Sur RCF Liège, le 93.8 ou encore rcf.be, il est 16h33 et 38 secondes.
C'est l'heure du goûter.
En direct jusqu'à 17h30 et on commence tout de suite en musique avec un petit peu de ska jamaïcain. Tiens, voici Swing Easy des Scatolites. Sorti en 1997, ici c'était Swing Easy, un morceau de ska par les Scatolites. Vous saurez tout. Je sens que ça vous parle, Philippe.
Moi ? Non, c'est lui qui dort, c'est pas moi.
Philippe est passionné, mais que par Claude François, il n'y a rien à faire.
Oui, et je pense qu'en 97, malheureusement, il n'aurait plus pu sortir grand-chose.
C'était difficile, en effet. Bon, on faisait des remixes, hein, des choses comme remixes, ça. Oui. Non, voilà, oui. On est un petit peu déçus, il faut le dire à Luc, on est un peu déçus parce qu'on avait espéré passer l'heure à deux, à oui. pouvoir nous interviewer l'un l'autre, etc. Mais c'est voilà, Yvelens est arrivé. Il est arrivé. Yvelens, bonjour.
Bonjour.
On vous a présenté, quand vous n'étiez pas là, en toute humilité, visibilité comme photographe de réputation internationale, hein, puisque vous êtes un peu partout, vous exposez un peu partout dans le monde aujourd'hui, alors que vous êtes un artiste assez récent finalement. Même si, quand est-ce que la première photographie?
La première photographie, c'est à l'âge de 8 ans, mais ça ne ressemblait pas encore à grand-chose. Je dirais à l'âge de 14 ans, je suis arrivé chez ma grand-mère et je suis revenu avec des yeux brillants. Elle m'a dit « Toi, tu as quelque chose à me demander ». Et effectivement, j'avais vu une pièce bourrée de, je ne sais pas, de 36 objets différents. Et j'avais vu qu'il y avait un évier. Oh, merveille. Et je me suis dit, à ce moment-là, il y a moyen de faire un labo. Et elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux me demander? Je dis, un labo. Elle me dit, tu enlèves tout, on se débrouillera. Et ça a été mon premier labo à l'âge de 14 ans. En plus de ça, oh, merveille, j'ai découvert qu'il y avait un voisin à 400 mètres de là qui avait aussi un labo. De résultat, on allait chez l'un, chez l'autre. Et voilà, ça a commencé à, je dirais, réellement à l'âge de 14 ans.
Et c'était un labo du noir et blanc, j'imagine.
Oui, du noir et blanc. Oui, du noir et blanc. Mais c'était merveilleux parce que je trouve avoir son image qui apparaît devant soi comme ça lentement, le mystère du noir et blanc, que malheureusement on ne connaît plus, puisque voilà, maintenant c'est
oui, relativement immédiat. J'ai fait ça aussi, Philippe, en son temps. Ouais, c'était très amusant. Ce que je trouvais le plus pénible, c'était dans la cuve pour les négatifs. Ça, c'était pénible. Il fallait se couper.
Oui.
Ah, c'était un peu rébarbatif.
Il fallait maintenir la température, tout ça, oui.
Et bien mesurer ses bains.
Je vais vous laisser. Que vous connaissez le...
Le chimie se retrouve.
Voilà, c'est ça, oui, tout à fait. Et alors quoi? À partir de 14 ans, c'est une passion d'adolescence. Il y a des photos spécifiques que vous prenez? C'était quoi? Des portraits?
En fait, à l'époque, c'était des portraits. Donc, je faisais des photos de reportage, des photos pour des mariages, des événements sportifs, je faisais plaisir à des amis. Bon, la plupart du temps, c'était tout à fait gratuit. De temps en temps, j'essayais de me faire payer un petit peu pour gagner un peu ma vie et voilà, payer mes sorties, on va dire ça comme ça. Mais c'est devenu professionnel beaucoup plus tard. C'est devenu professionnel, en fait, à l'époque, j'étais chez Belgacom et j'ai fait ma première expo. Et je me souviens toujours, il y a deux de mes amis qui m'ont dit « Et alors, tu as bien gagné ta vie ?» Et bon, ce genre de questions, nous, Belges, auxquelles on répond plus difficilement que les Américains, on va dire. Et puis, comme ils étaient insistants, j'ai dit oui, pas mal. Et puis, il y en a un des deux qui a vraiment insisté. J'ai dit, j'ai cité un chiffre, il me dit, oh là, toi, tu es dans des ennuis. Je dis, pourquoi? Parce que j'avais dépassé un certain seuil. Et donc, j'ai dû me déclarer directement comme indépendant à titre complémentaire. Du coup, j'ai dû demander à toute la hiérarchie de Belgacom, parce que l'autre ami m'a dit, tu as d'autres ennuis. Alors, j'ai dit, ah oui, ah bon. Il me dit, demain, tu peux être licencié pour faute grave. J'ai dit, pardon. Il me dit, est-ce que les gens de Belgacom savent que tu as fait ça? Ben, j'ai dit, bien sûr, ils sont tous là. Ils sont tous là, je les ai invités. Il me dit, mais tu n'as pas demandé la hiérarchie. Et moi, je n'étais pas au courant de toutes ces choses-là. Donc, je me suis mis très vite en ordre. Résultat, en fait, l'équipe de Belgacom, l'équipe de direction, m'a demandé de faire des reportages. À l'époque, c'était l'époque du trimaran, du fameux trimaran. Mm-hmm. Donc, j'ai fait des photos du trimaran. Il y a un bassin de carène, pas tellement loin d'ici, avec de l'eau hyper pure. C'est à 230 en Europe, on a ça d'ailleurs. C'est vraiment pas loin d'ici. C'est de l'eau tellement pure que quand on se penche dessus, on voit pas qu'il y a de l'eau. On se demande où elle est. Ça, j'avais jamais vu de ma vie.
Et puis,
j'ai fait des reportages aussi de l'équipe de direction de Belgacom, c'est-à-dire ce qu'ils appelaient le top 200 à l'époque où ils faisaient des événements, etc. Et, tout. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fait d'autres reportages pour eux. Et puis, de fil en aiguille aussi, ce qui arrive dans toute grande société, on réorganise tous les X temps. Chez Belgacom, ça devenait de plus en plus rapide. Et puis, un jour, j'ai mon patron qui m'a dit que j'étais l'heureux élu pour aller ailleurs. J'ai dit, tu veux dire que je suis licencié? En quelque sorte, je suis licencié ou je ne suis pas licencié? Oui, tu es licencié. Ah ben, c'est gentil. Et il fallait savoir que 4 mois auparavant, j'avais fait les photos de son mariage. Donc, j'ai estimé que c'était un ami, il aurait pu me prévenir un peu plus tôt, mais bon, voilà. Mais bon, ça m'a donné, en fait, c'était une chance, en fait.
Au fond, vous ne le voyez plus, je suppose.
Non. Je ne l'ai plus revu depuis lors, mais je veux dire, je ne lui en veux pas. Je n'en veux pas, ça, c'est le hasard des choses. Et puis, d'autre part, ça m'a donné vraiment l'opportunité de démarrer plus vite au niveau vraiment professionnel. Parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, ou bien je le fais mi-temps, et puis quand on fait 2 mi-temps, on fait 2-3 quarts-temps, ça ne ressemble plus à rien, il n'y a plus de vie de famille. Ou bien je le fais comme j'avais fait au début, c'est-à-dire que je prenais sur mon temps de repas et sur mon temps le soir, mon temps de famille, etc. Et tout, mais c'était très fatigant. Ou bien je le faisais plein temps. Et je me suis dit, vas-y, fonce, fais le plein temps. Je n'ai jamais regretté. Je dis pas.
Pardon. Et faire plein temps, c'est quoi? C'est du reportage d'abord? C'est quoi?
Non, ça a été très vite des photos abstraites. Donc, ma première expo, je n'ai pas dit ce que j'avais gagné, mais sur les 24 photos, il y en avait 16 qui étaient vendues. Heureusement, j'ai gardé l'esprit très, très, très froid dès le départ. Je me suis dit, attends, ça ne sera peut-être pas tous les jours comme ça. Et effectivement, bon, ça arrive comme tout artiste, je ne vais pas mentir, je veux dire, de temps en temps, on fait un bide. De temps en temps, ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire nécessairement que l'expo est mauvaise, mais ça veut dire qu'elle n'est pas comprise, qu'elle n'arrive pas au bon moment, que ce n'est pas le bon public. Donc, heureusement, j'ai été sage et je me suis dit, ne t'emballe pas. Mais ça a commencé comme ça, directement avec des photos abstraites. Et au départ, je dirais, ma décision la plus compliquée de toutes, c'était quel est le prix qu'on met sur une photo, déjà ? Et quel est le prix qu'on met sur une photo abstraite, encore plus ? Mm-hmm. Parce qu'une photo, j'ai une photo de reportage, en général, on sait, on peut demander à des collègues, etc. Mais les photos abstraites, moi, je ne voyais pas très bien qui étaient les autres, comme qui dirait, quels étaient mes concurrents. Mm-hmm. Donc, je n'avais aucune idée. Et ça a été la décision la plus compliquée. Parce qu'en termes artistiques aussi, on ne peut pas faire de rebate, on ne peut pas dire tout d'un coup, je fais promotions, des soldes. Okay. Je veux dire, on ne peut pas descendre son prix. Et on ne peut pas décevoir non plus tous ceux qui sont déjà des clients et qui ont déjà acheté. Parce que quelque part, moi j'ai dit ça à un ami artiste il n'y a pas longtemps, il était tout surpris, il me dit, je lui ai dit, tu te dois à toutes les personnes qui t'ont encouragé et à toutes les personnes qui t'ont acheté. Parce que quelque part, tu construis quelque chose, et tu construis quelque chose avant tout pour eux. Et bien sûr pour toi aussi, mais pour eux. Et donc ça veut dire que quelque part, ben, le prix, idéalement, ben, il doit monter.
Il doit rester.
Oui, ouais, rester ou monter.
Oui, rester ou monter, mais jamais descendre en tous les cas.
Pas descendre.
Et quoi, on se fait exposer dans des galeries facilement quand on arrive comme ça, nouveau photographe, pas encore très connu.
Alors là, j'ai eu la chance, c'est que j'avais un grand ami qui, depuis qu'il était tout jeune, son grand plaisir, en tout cas tous les week-ends, c'était de passer faire un tour de galerie et tout. Et il avait repéré un petit restaurant qui s'appelait Le Galerie, qui exposait des jeunes artistes. Et le restaurant existe toujours, je ne sais pas s'il y a toujours le même nom, c'est derrière le Palais de Justice.
Et à Bruxelles.
Oui, à Bruxelles. Okay. Pardon, sorry, le
Palais de Justice. Nous sommes oui, alliés, c'est pour ça.
Autant pour moi. Et donc, on a fait une approche rocanard, comme qui dirait. On est allé prendre un petit apéritif là-bas, etc. On était sur la table, j'avais posé mon book, et tout d'un coup, le propriétaire, je ne savais pas que c'était le propriétaire, a approché, a dit, tiens, qu'est-ce que c'est ? C'est un book, je peux voir. Il a regardé, ça lui plaisait. Et bon, il a mordu à l'hameçon. La seule chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout, c'est qu'une fois qu'on avait décidé des dates, il m'a dit, bah, vous occupez de tout le restant. J'ai dit, mais quoi, vous faites quoi ? Non, moi, je ne fais rien. Vous avez vos dates. Et je dis, mais je peux avoir un contrat ou quelque chose. Non, vous n'allez pas m'embêter avec ça. Vous avez vos dates, je vous fais confiance, vous me faites confiance, c'est bon comme ça. Et débrouillez-vous. Mais je me suis dit, qu'est-ce que je mets dans l'exposition ? Est-ce qu'il faut une affiche d'exposition ? Est-ce qu'il faut un dossier de presse ? J'ai fait tout ça, j'ai fait une affiche d'exposition, j'ai fait un dossier de presse, etc. Et tout. Et bon, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Hein. Quand on doit se jeter dans l'eau, ben on n'a pas le choix.
L'exposition, elle a été bien reçue. Comment celle-là ? C'est la deuxième, en fait. Hein.
C'était la première, je veux dire, vraiment en dehors de Belgique, comment on va dire, en dehors du
pro,
site.
Quoi.
Oui, en
pro. La première
oui.
pro.
Oui, la première pro. Et c'était très amusant parce que, par exemple, la personne qui a acheté la toute première photo était un grand ami de mon père. Il est arrivé, il a dit, je voudrais que ma femme vienne voir, etc. Tout, et puis tant pis, allez, je craque. Et c'était en fait avant l'ouverture, même. Il était une demi-heure avant l'ouverture, il était en avance. J'ai eu pas mal de monde, de Belgacom, j'ai eu des amis, etc. Et tout. Maintenant, quand on se lance, il ne faut pas se faire d'illusions. En général, c'est les gens qu'on connaît qui achètent, quoi. Mmh. Je veux dire, ce n'est qu'au bout d'un certain temps que tout d'un coup, il y a un premier inconnu ou une première inconnue qui achète. C'est logique aussi. Et petit à petit, le cercle grandit. Et c'est surtout à ça aussi que c'est les galeristes. Les galeristes, quelque part, apportent d'une part leur cercle de connaissances, mais apportent aussi leur connaissance du métier de l'art et apportent leur savoir-parler, apportent leur passion. C'est un métier aussi, galeriste. C'est un métier. C'est un métier pas si évident qu'on le croit.
Comment est-ce qu'on conçoit une photo abstraite ? Parce qu'il y a un grand ami d'ailleurs, notre ami Philippe, hein, qui est le peintre coréen, comment ça, je ne reviens plus sur son nom.
Kim Min-young,
voilà. Un jour, il avait fait une belle exposition en l'an 2000 à Bruxelles, d'ailleurs la cathédrale de Bruxelles, où il exposait des toiles abstraites des 12 apôtres. Et je me souviens avoir fait son interview, encore Philippe à l'époque, et j'ai dit, mais ici nous sommes devant quel apôtre ? Il m'a regardé avec un air bizarre. Je ne sais pas, qui m'a dit. J'ai dit, ça pourrait être Matthieu, Jean, je ne sais pas. Alors là, moi, j'étais vraiment stupéfait. Est-ce qu'en photo, c'est la même chose ?
Avant que vous répondiez, parce que je vous parlais de Kim Min-young, ouais. Il est venu, il a fait des vitraux chez les Dominicains à Louvain-la-Neuve. Ouais, ouais. Et alors, il y a ces quatre vitraux. Et là, on dit, mais ça représente quoi ? Il dit, ça représente les quatre évangélistes. Enfin, peut-être aussi les quatre saisons. Et puis voilà, vous êtes
c'est
là.
C'est vrai que c'est extraordinaire. Et comme j'étais déjà, moi, un petit peu hermétique quand même à l'art abstrait, mais j'avoue qu'il a réussi à me donner un peu le goût.
Oui, et alors, c'est pas fait. La dernière histoire, pas quand même pour Kim Min-young, c'était la Timothy Radcliffe, qui était connu quand il était à Rome et qu'il devait quitter Sainte-Savine pour le Vatican. Toujours quelqu'un lui courait après pour dire « Va vite changer ton habit parce que là, t'en as tout le menu de la semaine sur ton habit, s'il te plaît. » Et alors, un jour, sa maman qui vient, qui était Lady Radcliffe, qui arrive et elle se trouve devant un énorme Kim Min-young. Et puis, elle regarde le Kim Min-young et puis elle regarde son fils. et la bite son fils, et puis regarde, nous voilà Kim et Young, et puis elle lui dit, dans un anglais impeccable, mais je vais dire en français, « Eh bien, je n'aurais jamais cru que ton habit servirait de modèle pour une peinture. »
C'était pas mal.
Comme quand on trouve l'inspiration n'importe où. Et votre inspiration, monsieur Hunet,
mais mon inspiration est un peu partout, en ce sens que je suis quelqu'un qui observe énormément. J'observe, d'une part j'observe beaucoup et d'autre part je collectionne. Depuis que je suis tout petit, je collectionne des objets et j'ai un espèce de grand meuble avec des casiers. Dans ces casiers, bien régulièrement, je ramène un objet, soit un objet que j'ai acheté, soit un objet que j'ai récolté, etc. Et tout. Et je sais que ces objets seront un jour le sujet d'une photographie. Ça, c'est pour les objets, on va dire, que je ramène. Maintenant, que ça soit en voyage, que ça soit en Belgique, que ça soit ailleurs, ou bien c'est des rencontres fortuites avec des sujets qui me passionne, ou bien c'est organisé. Je veux dire, il y a des sujets que je reprends régulièrement, sur lesquels je travaille régulièrement. Maintenant, je vais parler, par exemple, d'un sujet dans lequel je travaille régulièrement, et un d'ailleurs qui me chagrine pour l'instant, c'est la forêt de soigne. Parce que pour l'instant, on fait des grandes coupes dans la forêt de soigne, donc mon cœur saigne. Mais depuis plus de 10 ans, je fais des photos abstraites dans la forêt de soigne à toute saison. Donc ça peut être des objets très très grands, ça peut être des objets tout petits. En général, c'est des objets colorés, qui sont soit source de lumière, soit ils reflètent la lumière, soit la lumière passe par transparence dans ces objets. Et en général, quand je m'intéresse à un objet, je tourne autour dans tous les sens pour essayer de vraiment de le percevoir sous toutes ses dimensions, donc de percevoir sa texture, de percevoir son volume, de percevoir sa présence. Et ça, c'est la partie, j'allais dire, vraiment tout à fait consciente. Et puis tout d'un coup, je me dis, bon, ben voilà ce que j'aimerais peut-être faire. Et puis après ça, c'est pratiquement, je laisse mon corps travailler. C'est très, très bizarre. De temps en temps, je ferme même les yeux. Ça m'est arrivé de fermer les yeux. C'est plus pour des grands objets que je ferme les yeux. Parce que les petits, mon mouvement doit être ultra précis pour que ça ressemble à quelque chose. Et en fait, j'emploie mon appareil photo comme un pinceau, comme une caméra. Et donc, ça change complètement l'objet. Donc, l'objet n'est plus reconnaissable. Et ça crée des univers à la fois fantastiques et merveilleux. Et je veux dire, de temps en temps, je suis émerveillé moi-même, même assez fortement. Il y a quelques années, je pense à quelque chose qui me revient à l'esprit. Il y a quelques années, c'était encore l'époque des négatifs et des diapositives. Et je travaillais aussi en moyen format. Donc, c'était des moyens formats en diapositives, en bande. Donc, c'était des assez beaux objets. Et je déballe ma bande comme un jeune enfant qui déballe son paquet cadeau. Et je dis, oh, ça, c'est pas terrible. Et tout d'un coup, je dis, oups, et je regarde ça. Et je regarde de près. Et je me dis, non, d'une pipe, je me suis fait un monnaie. Et ça ressemblait au nymphéa de monnaie. Mais il y en avait une. Et en fait, quand je parle de mes photos, je dis, c'est des accidents organisés heureux. Je dis heureux parce que d'une part, mes photos, c'est important, doivent véhiculer une dimension vraiment de bien-être et de bonheur. Organisé parce que quelque part, je fais environ 200 000 photos par an. Donc je sais quand même, malgré tout, c'est pas, je ne les fais pas tout à fait au hasard, mais je sais un peu où je veux aller. Ça demande beaucoup de technique et beaucoup de rigueur. Et un accident aussi, parce que malgré tout, sur les 200 000, il y en a environ 20 qui sont dignes d'être des photos d'exposition. Donc ça fait...
Est-ce que le numérique n'a pas justement amené un volume quelque part? Parce qu'on dit, on n'hésite plus à faire 100 ou 200 photos même. Est-ce que le numérique, quelque part, n'a pas un peu transformé aussi le regard en disant « je vais retravailler davantage par Photoshop ou d'autres logiciels »
Le numérique a changé le métier, ça c'est clair. En ce sens qu'en argentique, surtout par exemple pour ceux qui travaillent encore à la chambre, quand on travaille à la chambre, on a en fait un énorme négatif qui coûte extrêmement cher, déjà le négatif, et puis à développer ça coûte extrêmement cher. Et puis souvent c'est du matériel lourd, donc il faut arriver dans les bonnes conditions de lumière, etc. et tout pour prendre sa photo. Et si tout d'un coup on a mal exposé un matériel volé, c'est raté et c'est beaucoup d'argent gaspillé en un coup. En digital, grosso modo, c'est chaque fois une impulsion électrique sur un matériel qui peut être utilisable, je dirais pas à l'infini, mais quand même assez bien. Mais donc ça permet d'expérimenter. Ça c'est le gros avantage. Pour moi, c'est un énorme avantage parce que ça me permet d'essayer d'oser plus. L'inconvénient, c'est qu'après ça, vous vous retrouvez effectivement avec une foule de renseignements qui sont des photos dans lesquelles vous devez trier. Et par exemple, je fais aussi des portraits. Il faut savoir que pour une séance de portrait qui dure une après-midi, ben, il me faut une après-midi ou une matinée de travail simplement pour trier les photos, quoi. Donc ça prend au moins autant de temps pour faire le tri que ce qu'on a passé à les prendre.
Moi, je voudrais revenir à ce que vous avez dit il y a quelques instants. Ouais. Je prends mon appareil photo comme un pinceau. Alors voilà, vous êtes dans la forêt de soigne. On est en les couleurs d'automne, comme il y a quelques semaines. Voilà, les plus belles.
Surtout cette année. Voilà. Cette année, c'était exceptionnel.
Oui, c'est tout à fait. Et vous faites quoi? Quand vous dites comme un pinceau, ça veut dire qu'au moment où vous prenez la photo, vous bougez votre appareil?
Je bouge complètement mon appareil. Je fais en fait ce qui est normalement interdit avec un appareil photo, les effets de bouger. C'est juste fait en général pour suivre des voitures, des choses qui bougent vite. Non, moi, je bouge, donc je transforme le réel en bougeant. C'est très rare que je fasse des photos fixes. J'en ai quelques-unes. Par exemple, il y a quelques années, c'était Lille, capitale de l'Europe, au niveau culturel, en 2004. Et il y avait une chapelle désacralisée et il y avait un Allemand qui s'appelait Erwin Redl qui avait fait des rideaux de lumière avec des LED. C'était extraordinaire. Et en fait, là, j'ai pris quelques photos fixes au moment où son programme faisait changer de lumière, etc. Et tout. Mais chez moi, c'est rarissime. Je dirais, il y a une photo sur... Allez, deux photos sur 100, je prends des photos fixes. Donc 98 sur 100, je bouge.
Donc ça maintenant... veut dire que vous jouez beaucoup avec le flou, alors,
tout le temps
sur le flou.
Oui, et par exemple, quand je prends une marine, je prends un horizon qui est 2-3 km. Donc je dois beaucoup bouger. Et ça dépend de l'objectif, évidemment. Plus je suis grand angle, plus je dois bouger. Plus je suis au télé, moins je dois bouger.
Je souris parce que je suis en train de penser à Marine Le Pen qui est prise en flou.
C'est pas la même marine, Philippe. Pas la même.
Quand tu dis une marine, c'est quoi une marine? Quand je prends une marine, c'est quoi? C'est la mer?
Oui, c'est la mer. C'est la mer et même marine. Il y a des années, j'étais invité en fait à Vannes aussi pour montrer les marines.
Non, restez. C'est Isabelle Califis qui arrive dans le studio très discrètement.
Bonjour Isabelle.
Voilà.
Enchantée.
Elle viendra nous faire sa petite chronique littéraire vers 17h22, quelque chose comme ça. Donc, on a un peu de temps. Dans ces photos. Donc, j'imagine, je suis toujours dans ma forêt de soigne, les couleurs d'automne, les couleurs de feu, etc. Vous faites un mouvement. Mais donc, la photo que moi je vais voir, je ne pourrais jamais me dire, ça, vous avez pris la forêt de soigne, ou si.
Dans certains cas, les sujets sont reconnaissables. Je dirais, mes photos de forêt sont relativement reconnaissables, mais mes marines, on voit que c'est des marines, sauf si je suis vraiment très tremblant ce jour-là, ou des choses comme ça.
Sauf si
je joue, par exemple, des marines, je prends parfois des marines à la tombée de la nuit, et là, c'est les lumières qui sont sur l'eau jouent plus. Et alors là, on peut moins voir que c'est une marine. Mais certains sujets sont relativement reconnaissables, surtout en général les grands sujets. Justement, des arbres, mais c'est grand. Les petit sujet, c'est pratiquement pas... Voilà, il n'y a pas moyen de deviner. Mais c'est pas ça qui est important. Je crois que ce qui est important, c'est surtout la magie de la photo finale. C'est le rêve. Quelque part, je procure à travers mes photos du rêve et de l'émotion. Et tous ces rêves, ces émotions sont liés à la lumière, donc sont liés à l'expérience que j'ai eue à l'âge de 8 ans.
Ça, si vous voulez bien, on y reviendra après le flash.
J'avais peut-être encore une petite question quand on parlait du numérique là tout à l'heure. Finalement, la créativité, je veux dire, avant le numérique, c'était surtout la prise de vue, prendre les bons angles, la bonne lumière. Ça prenait un temps bête. J'ai fait un peu de photos, je sais bien, je me teinte parfois un temps fou pour une bête petite nature morte parce que je voulais avoir le bon angle, la bonne lumière. Maintenant, avec le numérique, finalement, on crée presque encore plus après la prise de vue.
En fait, j'allais dire oui sur certaines photos, mais pas les miennes, curieusement. Ou une partie des miennes, je veux dire. Je fais aussi des portraits. Sur mes portraits, oui, là, il y a beaucoup de choses à faire, en ce sens qu'un visage, même d'un bébé, un bébé de 3 semaines, avec de la lumière de studio, eh bien, il aura des cernes. Donc vous allez devoir retoucher un bébé de 3 semaines. Ça paraît idiot, mais c'est le cas. Et une personne, quelle qu'elle soit, vous allez devoir demander jusqu'où elle veut être touchée. Parce que s'il y a trop de retouches, ça ne va plus être ressemblant. Et s'il y en a trop peu, surtout pour ces dames, elles seront un peu fâchées. Ce dont je n'ai pas envie. Donc sur les portraits, oui, il y a la retouche. Sur mes photos, en fait, qu'est-ce qu'on fait?
Vous ne retouchez pas votre épouse, quand même.
j'ai dû la retoucher un petit peu, mais j'ai confié ça à mon collègue. Je l'ai prise en photo. J'ai fait une séance de portrait il y a 3-4 ans, j'ai pris en photo et oui, j'ai dû lui demander jusqu'où veux-tu être touché. Ce qui était bizarre. Mais elle n'en a pas trop besoin. Voilà. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on retouche peu de choses. C'est-à-dire, pour être précis, en fait, on fait ce que toute ménagère fait, on enlève les poussières. Quand on était en argentique, en fait, le film attire l'électricité statique, produit l'électricité statique, pardon, et attire la poussière. Et bien, en numérique, chaque fois qu'on allume ou qu'on éteint son appareil photo, il crée un champ magnétique qui attire la poussière. Et même quand les appareils photos sont scellés, les petits appareils photos sont scellés, et bien, il y a des mécanismes qui produisent des poussières qui elles-mêmes sont attirées
L'objectif ?
Par le capteur.
Par le capteur.
Et donc, ce qu'on doit faire, idéalement, on doit nettoyer son capteur avant de faire les photos, mais on n'a pas toujours le temps, parfois on ne voit pas les poussières, etc. Et, tout. Et donc, à la prise de vue, il reste parfois encore des poussières. Donc, la première chose qu'on fait, c'est agrandir tout, mettre en très 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 grand, et garder s'il y a encore des poussières. La seconde chose que moi je fais, j'ai deux tireurs, un pour les petits formats et un pour les grands formats, et en fait, avec eux, on décide d'une interprétation. Une interprétation, c'est, grosso modo, est-ce qu'on veut un peu plus lumineux, est-ce qu'on veut un peu plus contrasté, mais c'est quasi tout. Et les seules photos sur lesquelles il y a une vraie intervention, c'est justement les marines, parce que les marines, en fait, étant donné que je fais ça à main levée, je ne suis pas sur un pied, je me dis, je ne suis pas une machine, donc je ne vais pas droit, droit, droit. Et ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, une marine, il peut y avoir plusieurs horizons. Est-ce que l'horizon, c'est la ligne de la plage? Est-ce que c'est la ligne de l'écume? Est-ce que c'est la ligne des vagues? Est-ce que ça peut être une ligne de nuages qui est particulièrement marquée? Il faut choisir quel est l'horizon, quel est le choix artistique à ce moment-là. Donc dans les marines, dans ces cas-là, on recadre. Mais c'est très rare qu'on recadre dans mes photos. Donc en fait, le travail à faire est très très subtil. Il paraît peu. Pour moi, c'est beaucoup. C'est ça qui fait la différence. Mais il faut que la photo soit déjà parfaite pratiquement au départ. C'est pour ça que quand je disais 200 000 pour arriver à 20, c'est là aussi. Donc voilà, je suis extrêmement exigeant.
Quand vous dites il y a les petits formats, il y a les grands formats, c'est petit jusqu'où et c'est grand jusqu'où?
Alors mes plus petits formats, c'est un A4. Donc ça, je pense que tout le monde visualise. Les grands formats, c'est plus difficile à visualiser. C'est 2,40 m, c'est 1,60 m. C'est déjà des grandes pièces. Et j'ai fait une installation il y a environ 3 ans où j'ai fait une installation de 7,90 m sur 12,80 m. Mais c'était 88 photos. Donc c'était un ensemble.
Donc c'est un assemblage.
Oui, c'est un assemblage de photos.
Et c'était une reconstitution d'une prise de vue originale ou...
Non, c'était, j'ai dû prendre, je crois, 500 à 600 photos. Et dans 500 à 600 photos, j'ai fait un choix de photos. Il y en a certains qui étaient des carrés et d'autres qui étaient des ronds. Et en fait, ce qui se passe quand je travaille pour des sociétés, j'interviewe en général le big boss. Et je demande deux choses qui sont assez essentielles et qu'on peut demander en général qu'au big boss. C'est la première chose, quelles sont les valeurs de sa société qui sont souvent liés à ses propres valeurs à lui. Et deuxième chose, qu'est-ce que fait la société? Ça, on peut demander à plus de personnes. On peut demander ça au directeur commercial, certainement. Et de là, en fait, je crée des projets tout à fait sur mesure. Et dans ce cas-là, de cette grande installation, en fait, c'était un ensemble de banques qui fusionnait des francophones et des néerlandophones. C'est pour ça que j'avais joué avec des carrés et des ronds. J'avais joué avec des couleurs et des choses qui se rejoignaient, qui tout d'un coup allaient vers le ciel. Et le ciel devenait bleu et tout était aligné.
Yves Lenz, vous restez bien avec nous. Vous êtes un traqueur de lumière. On en parlera juste après le Flash National. Le temps pour nous de nous rendre à Wavre.
Vous écoutez RCF Liège, il est 17h. Comme vous le disiez à l'instant, Philippe, le Flash Info National depuis Wavre. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Le niveau de la menace terroriste devrait en principe rester à 3 jusqu'à la fin de l'année. C'est ce qu'a indiqué ce mardi le cabinet du ministre de l'Intérieur Yann Yambon à la suite d'une réunion hier du Conseil National de Sécurité. La situation devrait toutefois être évaluée en permanence durant la période des fêtes de fin d'année. Dans ce contexte, le bourgmestre de la ville de Bruxelles, Yvan Mayer, a annoncé hier soir le maintien du feu d'artifice tiré comme l'an dernier depuis le périmètre de la place de Brocaire à l'occasion du passage à l'an 9. Si le niveau de la menace reste fixée à 3. En cas de retour d'une menace imminente, donc d'un niveau 4, il sera supprimé. La ministre fédérale de la mobilité, Jacqueline Galland, compte totalement interdire l'alcool aux jeunes conducteurs pendant les 3 ans suivant l'obtention de leur permis. Pour ces automobilistes, le seuil de tolérance sera abaissé à 0,2 g d'alcool par litre contre 0,5 pour les autres conducteurs. Ce taux maximum de 0,2 g par litre est déjà en vigueur pour les professionnels. Il signifie concrètement l'interdiction complète de boire. Ce seuil technique a été choisi car en dessous de quelques bonbons alcoolisés suffisent à être déclarés positifs. Jacqueline Galland précise que les 3 premières années après l'obtention d'un permis correspondent à la période la plus critique et qu'une tolérance zéro doit permettre de lutter de manière plus intensive contre l'insécurité sur nos routes. Sécurité routière encore, Mercurius, la base de données répertoriant les infractions de la route, sera mise en service à la fin de l'année prochaine. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Justice, Koen Gaens. Le ministre a libéré un montant de 500 000 euros pour le déploiement de ce système qui doit permettre de mieux combattre les délinquants de la route récalcitrants. L'objectif de Mercurius est de collecter électroniquement tous les changements de statut du permis de conduire à partir de la fin 2016. L'information sera immédiatement accessible pour la police, le ministère public et les services en charge du permis. De cette manière, il sera par exemple possible de repérer les conducteurs sous le coup d'un retrait de permis. En 10 ans, la part des travailleurs atteints d'une maladie de longue durée a presque doublé en Belgique. L'INAMI constate que le rythme s'est particulièrement accéléré au cours des 2 dernières années. À la moitié de l'année, l'INAMI recensait quelque 335 000 travailleurs malades depuis plus d'un an et bénéficiant d'une allocation. Et enfin, saluons cette belle histoire de solidarité. À Soigny, des demandeurs d'asile et des bénéficiaires des allocations sociales se sont portés volontaires pour rénover une maison destinée à accueillir une nouvelle famille de candidats réfugiés. Suite à un appel du CPS, 10 demandeurs d'asile ont immédiatement proposé leur aide. Cette tâche a permis d'occuper un peu plus les journées des demandeurs d'asile et grâce à cet élan de générosité, une famille pourra s'installer dans les lieux dans les prochaines semaines. Voilà qui conclut ce flash d'information. Prochain rendez-vous, ce sera à 18h15 en compagnie de Natacha Coq. À tout à l'heure.
À tout à l'heure. Le flash vous était proposé par Manu Van Lier. Un peu de musique avant de retourner en studio avec Youm. L'or se trouve au fond des mots.
En attendant que ton cœur refasse surface, je me jette à l'eau et tente d'avancer. Et en attendant que tu sois prête à sauter, je retiens mon souffle pour ne pas boire la tasse. L'or se trouve au fond des mots. L'or se trouve au fond des mots. En attendant que l'aube se lève sur notre amour, je dépose la rosée chaque jour à tes pieds. En attendant que le rêve et la vie s'unissent, je retrouve le sens aux mélodies inachevées. L'or se trouve au fond des mots. L'or se trouve au fond des mots. On m'avait dit qu'il y aurait des gouffres à surmonter. Les profondeurs ne m'ont jamais fait pâlir. On a souvent glissé vers les abîmes. Ils n'abîmeront pas notre espoir d'aimer. En attendant que tes doigts de rose m'effleurent, je demande au destin de nous unir. En attendant que dans tes bras je puisse mourir, je me morfonds et compte toutes les heures. L'or se trouve au fond des mots. L'or se trouve au fond des mots. Je ne veux plus attendre, tu m'entends. Je ne veux plus attendre en attendant. Je ne veux plus attendre, tu m'entends. Je te veux sans attendre. Lance tout au fond des mots. Lance tout au fond des mots. Lance tout au fond des mots. Lance tout au fond des mots.
L'or se trouve au fond des mots, c'était Youm. On est toujours dans l'heure du goûter et on parle de lumière, messieurs.
Je crois que c'était Youm Kippour.
Le Youm Kippour, c'est pas tout à fait la même chose. C'était une question de lumière aussi, mais différemment, voilà. différemment. Mais nous parlons aujourd'hui de photos abstraites particulièrement.
Oui, avec Yves Hulens, donc Tracker de lumière, c'est une exposition qui va avoir lieu, qui est en plein cours, je ne sais plus où. C'est vraiment votre définition.
Non, c'est ma définition. En fait, c'est presque un titre de scène. En fait, c'est un cadeau que j'ai reçu, un beau cadeau. Quand j'ai commencé chez Belgacom, en fait, j'avais un collègue qui avait commencé exactement au même niveau que moi, le même jour. Mais moi, j'étais sur tout ce qu'on appelle les produits, le téléphone avec fil, sans fil, fax, etc. Et, tout. Et lui, il était sur ce qu'on met derrière un central téléphonique, c'est-à-dire le signal deuxième appel, la conférence après, A3, ce genre de choses-là. Et en fait, il avait raté le vernissage, il était trompé de jour, il était venu avec son épouse le lendemain. Et puis, 3 jours après, je reçois une carte postale. Et je lis cette carte postale et là j'étais scié parce que c'était tellement bien écrit quand on lit quelque chose qui est particulièrement bien écrit, souvent on attrape un frisson. J'avais vraiment un frisson terrible, j'avais les poils hérissés. Et dans cette petite carte postale, il y avait le mot « tracker de lumière ». Et puis le lendemain matin, je suis arrivé au bureau et j'étais tout agité. Je dis « Alain, je savais pas que vous étiez passé, comme c'est gentil. J'ai une question un peu indiscrète. Est-ce que ton épouse, c'est pas son métier d'écrire ?» Il me dit « Oui. Elle écrit pour elle fait des albums pour les enfants. » Je dis « Ben, je comprends mieux parce qu'elle écrit vachement bien. Je voudrais l'appeler pour la remercier. » Et puis on l'a appelée et je l'ai interviewée sur Tracker de lumière. Et je lui dis « Mon Dieu, c'est merveilleux, c'est exactement ce que je fais. » Alors maintenant, je vais peut-être un peu expliquer Tracker de lumière. En fait, Tracker de lumière, je vais rechercher les sources de lumière, en fait, où on ne les voit pas, ou bien elles sont trop fortes ou bien trop faibles. Et souvent, on passe à côté, on ne réalise pas ce que c'est. Et en fait, je vais souvent les amplifier et les rendre encore plus belles pour les apporter aux autres. voilà un peu mon métier. Et quelque part, en les apportant, j'apporte du bien-être. Voilà. Ça, c'est ce que j'espère faire.
Ouais. Et justement, traqueur de lumière, mais c'est aussi lié à... Vous avez, à l'âge de 8 ans, on en a parlé, je brillais tout brièvement en fin de première partie de l'émission. Vous-même, vous avez vécu une expérience de lumière, justement.
Oui. En fait, j'avais 8 ans, j'étais 3 jours dans le coma. Bon, quand on a 8 ans, c'est pas parce qu'on a 8 ans qu'on ne réalise pas toutes ces choses. Et quand je suis revenu à moi, j'ai réalisé tout de suite que j'avais peut-être pas trop intérêt à raconter ce que j'avais vu, ce que j'avais vécu. Même pas du tout, parce que j'ai vu la tête de mes parents, j'ai vu la tête du médecin, et aucun électron n'avait l'air plus réjoui que les autres. Et quasi tout de suite, enfin, très vite, on m'a fait un électroencéphalogramme. Et ça a été un peu terrible parce que j'ai dû attendre l'âge de 25 ans pour littéralement coincer ma mère dans un petit coin, ce qui ne me ressemblait pas vraiment. Et je lui ai dit « Maman, est-ce que je peux te poser la seule question qui m'obsède depuis des années ?» Elle me dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ?» Je lui ai dit « Je voudrais quand même te poser la question, qu'est-ce qui s'est passé quand j'avais 8 ans ?» Mais elle me dit « Bon, tu as été trop long dans le coma. » Je dis « Ça, je sais. Mais c'était quoi cet électroencéphalogramme ?» Et ben, on se demandait si tout allait bien. Et je lui ai dit « Mais quel était le résultat ?» Elle m'a dit « Mais excellent. » J'ai dit, bande de zozo, vous auriez pu me dire, quoi. Parce que moi, j'ai passé toutes mes années de jeunesse un peu dans mon coin en me disant, ben, au fond, je suis peut-être un peu lent ou un peu retardé et j'ai beaucoup de chance que ma famille m'accueille encore. Mm-hmm. Et résultat, j'étais un peu souffre-douleur de cousin. Je dis, j'avais pas l'air d'avoir beaucoup de personnalité. Ce n'est que par après que j'ai développé ma personnalité et que je la développe particulièrement en tant que photographe. Je pense qu'en tant que photographe, j'ai beaucoup de personnalité. J'ai vraiment réalisé que cette expérience-là, j'avais intérêt à la garder pour moi. Par contre, à l'âge de 10 ans, je me suis précipité sur toute une série de livres pour essayer de comprendre ce que j'avais vécu. Parce que quelque part, je pense que j'ai vu un espèce de flash de lumière. Je me suis senti extrêmement bien. Plus que ça, je ne sais pas tellement dire. J'en ai un souvenir confus. Mais ce qui est très bizarre, c'est que quand j'ai commencé à faire mes photos abstraites, j'ai commencé d'une part sous le nom Traque Lumière. Ce n'est même pas moi qui l'ai choisi, puisque quelque part, je l'ai adopté, on va dire ça comme ça. Et puis, j'avais ma première assistante qui me disait, j'avais toujours dit, Géraldine, tu peux me poser les questions que tu veux. Et à tous mes assistants, j'ai toujours dit ça, il n'y a pas de mauvaises questions. Il y a des questions parfois auxquelles je ne sais pas répondre. Je dirais, je ne sais pas répondre, je dirais, je vais chercher. Et elle avait une question qui est, Monsieur Hulens, quel est votre positionnement? Je lui ai dit, Géraldine, mon positionnement, c'est quoi le positionnement? En termes marketing, je sais ce que c'est qu'un positionnement de produit, parce que ça, je l'avais étudié, mais un positionnement d'artiste, je ne savais pas. Et puis elle m'a dit, mais simplement, pourquoi est-ce que vous faites ça? Pourquoi est-ce que vous prenez juste des photos de lumière? Parce que tout photographe a besoin de lumière pour faire des photos, mais vous, vous faites des photos de lumière, sur la lumière. Je lui ai dit, Géraldine, je ne sais pas. Je le fais juste parce que je dois le faire. Je sais que c'est intrinsèquement très fort en moi. Et en fait, j'ai mis, je crois, 3-4 ans à réaliser que c'était lié à cette expérience d'âge de mes 8 ans. Et que si je devais faire quelque chose sur Terre, je crois que c'était ça, c'était essayer d'apporter ce bien-être, essayer de faire que les gens se sentent mieux à travers l'expérience que j'avais eue. Voilà.
Cette expérience que vous avez eue, par exemple, vous avez lu le Dr Moody, La vie après la vie.
Oui. Mais par après, j'ai su mettre peut-être des mots. Alors bon, la question que je me pose, c'est quelle est la part de mon expérience et quelle est la part de ce que j'ai lu? Parce que ce qui se passe aussi, j'ai eu cette expérience à l'âge de 8 ans et j'ai commencé à lire à l'âge de 10 ans. Et à cet âge-là, on n'est pas non plus comme un adulte rationnel. Donc voilà, c'est là aussi que je n'ose pas trop m'engager ou raconter. Mais clairement, j'ai été 3 jours dans le coma et j'ai eu une near-death experience. Et c'est ça qui m'a marqué. C'est pour ça que tout mon travail sur la lumière.
Ça, est-ce que clair. Quand on a vécu ça même à 8 ans, même si voilà, on peut se poser des questions, etc., est-ce que c'est... On approche la mort autrement? Est-ce que...
Je pense que ça apporte une certaine philosophie. En plus de ça, je vais dire quelque chose qui est bizarre, même très bizarre. J'ai eu la chance de presque mourir plusieurs fois. Maintenant, je vais un peu m'expliquer. Quand j'avais, en fait, à la naissance, j'avais une triple circulaire. Et en fait, mes parents avaient perdu le bébé entre ma sœur que tu connais, entre Brigitte et moi. Il y avait un bébé. Il y a dû y avoir un bébé. Ils avaient perdu le bébé. Et donc, mon père et ma mère voulaient savoir si j'étais un garçon ou une fille. Et heureusement, il y a une infirmière stagiaire qui, comme un ballon de rugby, s'est emparée de moi. Elle m'a déballé. Elle m'a sauvé la vie. Mais encore il n'y a pas longtemps, j'étais un spécialiste d'énergie qui m'a dit tout de suite, vous manquez d'oxygène dans toutes vos cellules. Le gars ne m'avait jamais vu, il me voit, il attendez-vous. Et 2 secondes après, il me sort ça. Je me dis, d'où est-ce qu'il me sort ça? Et j'ai mis un bouton à relier ça à ma naissance. Donc à la naissance, disons que ça a été assez chaud. À 8 ans, donc là, c'était 3 jours dans le coma. Bon, maintenant, les comas sont assez bien, comment dirais-je, contrôlés. On sait ce qui se passe, mais à l'époque, on ne savait pas.
C'était un accident?
Non, en fait, j'avais une crise d'acétonémie.
Ah oui.
Et en fait, quand vous avez trop de sucre dans votre système, votre cerveau disjoncte pour quelque part rester...
Se mettre en protection.
Oui, voilà, se mettre en protection. Exactement comme un fusible qui disjoncte. Et puis à l'âge de 18 ans, ça a été peut-être la chose la plus grave, là. Mais je n'ai pas eu de near-death experience. Là, j'ai été conscient tout le long. fond, mais j'ai eu une mononucléose, en fait, avec une atteinte hépatique très grave. Et en fait, le médecin en chef du service d'urgence de Carville, qui s'appelait Dr Gottini, m'a soigné, a fait tout ce qu'il pouvait, et puis il a dit à ma mère, reprenez-le chez vous, madame, je ne peux plus rien pour lui. Et en fait, mon foie était condamné à l'époque. Et bon, on ne faisait pas de greffe du foie à l'époque. Maintenant, on fait ça, on coupe le foie en petits morceaux, on le régénère. Enfin, on fait des choses extraordinaires maintenant. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Et en fait, ma mère m'a nourri comme un petit oiseau, vraiment avec des toutes petites cuillères bouillies, etc., à faire mesure, des petits bouts de biscuits. Et je suis revenu à moi. Qu'est-ce que j'avais perdu? J'ai perdu 17,5 kg en 5 semaines. Donc, c'était assez violent.
À 18 ans, ça, c'est ça?
J'avais 17 ans, oui, 18 ans. Oui, c'était ma première année d'UNIF. Et je me souviens, j'étais à Medellin seulement pour savoir si on m'acceptait en septembre, si je pouvais aller. Et mes copains m'ont pratiquement pas reconnu, quoi. J'ai dû faire des trous supplémentaires à ma ceinture, vachement loin, les trous, pour pouvoir pas perdre mon pantalon, quoi. Qui dirait?
Bah, il y a des gens qui aimeraient bien perdre ça.
Ça, c'est terrifiant, hein. Ouais. On se sent plus soi-même.
Mais c'était surtout, je me souviens particulièrement d'un jour, je me sentais très bien et je me dis, tiens, je vais aller voir ce qui se passe à la fenêtre, je vais ouvrir mes rideaux parce que j'étais dans ma chambre et je ne savais pas bouger. Et en fait, les rideaux n'étaient pas très loin, ils devaient être à 3 mètres. J'ai mis un quart d'heure à y aller, une demi-heure à revenir en rampant. Et je suis revenu dans mon lit, j'étais trempé. Et en fait, je pensais me sentir bien. On n'avait pas d'énergie. Hein. C'est vraiment comme une batterie qui est vide, quoi. Ouais.
Tout ça vous a marqué. Tout ça, quelque part, est inscrit dans votre histoire. Et puis, et donc maintenant, aujourd'hui, traqueur de lumière. Voilà, vous êtes venu qu'un cadeau. On a devant nous une photo. Est-ce qu'elle représente... Il y a un objet derrière. Est-ce que c'est... Vous avez
utilisé... Enfin, décrire un peu la photo, Philippe.
Donc, ça part sur du bleu, voilà. Sur la gauche. Je ne sais pas si c'est un arc-en-ciel. Il y a un petit peu de rose, de l'orange, plus vers du rouge. Et puis, on repart vers un... Comment est-ce qu'on appelle ce couleur vert
J'en dirais brut, très pâle.
Voilà.
Je ne sais pas.
C'est difficile pour moi. C'est difficile de
dire. Ici, voilà, par exemple, ça, comment est-ce que vous arrivez à... C'est quoi? C'est un objet? C'est ces couleurs?
En fait, comme tout artiste, on a été influencé par des artistes qu'on aime bien, qu'on admire et tout. Un de mes peintres abstraits que j'aime le plus, c'est Marc Rothko, qui faisait des peintures incroyables et qui était vraiment... Un grand, grand monsieur qui, malheureusement, a terminé sa vie en suicidant. Bon, voilà. Mais c'était quand même un peintre qui peignait des choses très lumineuses. Et en fait, c'était en Afrique du Sud, on faisait un voyage et on est rentré dans un lieu qui avait ces couleurs-là. Et tout de suite, mon épouse a vu mon sourire. J'ai dit, écoutez, on avait un guide qui nous guidait à travers l'Afrique du Sud, comme c'était un pays qu'on connaissait mal. J'ai dit, écoutez, vous allez prendre un drink. Je ne sais pas quand j'arrive. Et ma femme, tout de suite, a vu l'endroit, s'est dit, c'est les couleurs. Et c'était vraiment les couleurs du lieu, c'était ça. La seule chose, c'est que dans ces couleurs, qui étaient les couleurs données, il y avait des grandes bandes noires. Donc je savais que je voulais mélanger d'une part les couleurs pour arriver à un effet de fondu, parce que c'est vraiment la prise de vue. Je vous montrerai l'équivalent du négatif, ce qu'on appelle le fichier RAW. Ça ressemble à ça, à 99,9%, quoi. Et en fait, je voulais, à la prise de vue, arriver à atténuer ces bandes noires. Ça, c'était mon challenge. Et surtout, je voulais avant tout arriver à avoir un effet où la lumière se mélange, s'intensifie, se marie et fait quelque chose d'un peu féerique. C'est comme un bain de lumière.
Mais le sujet photographie ici, c'est quoi? C'est un coin de mur?
C'était un mur qui avait... En fait, c'était du papier peint. Voilà, je dis rarement quel est mon sujet, mais bon, puisque... Voilà.
On est juste entre nous.
Voilà, juste entre nous. C'était un papier peint.
Mais ici, ouais. Ce n'est pas coupé au couteau comme chez Rothko, c'est vraiment...
Il y a passage. Oui, je n'ai pas les mêmes outils. Donc moi, je peux ralentir dans mon mouvement, je peux repartir, mais c'est juste mon mouvement. Par contre, en peinture, faire cet effet-là, comme je l'ai fait, est extrêmement dur. Donc ce n'est pas... Oui. Voilà. Chaque médium a ses avantages, ses inconvénients.
Tout à fait.
Ici, je vois que vous parlez toujours d'objets, mais je sais que vous faites du portrait aussi, vous en avez parlé tout à l'heure. Mais est-ce que... Un portrait peut vous suggérer une image abstraite?
Ah, ça c'est amusant, parce que vous partez dans un de mes dadas qui est un de mes projets. J'ai toujours des projets, je pense que c'est familial d'avoir des projets. Un de mes projets est lié justement au trait de caractère et à la personnalité. Alors maintenant, je l'ai un peu expliqué. J'ai la chance d'avoir un fan club. Et dans ce fan club, il y a une femme extrêmement brillante qui est spécialiste dans tout ce qu'on appelle le marketing psychologique. Et je savais que pour arriver à faire les portraits que je vais arriver à faire, il fallait que je puisse déjà résoudre le challenge suivant, rencontrer quelqu'un, par exemple, on ne s'est jamais vu. Eh bien, comment est-ce que je fais en 5 minutes pour savoir quels sont vos traits de caractère et quelle est l'intensité de vos traits de caractère. Et en plus de ça, le challenge est triple, donc les traits de caractère et l'intensité. Et il faut des traits de caractère qui soient représentables dans l'espace continuum, allez, l'espace-temps, on va dire, donc avec un mouvement. Et en fait, j'ai travaillé avec cette personne qui s'est partie de mon fan club et elle m'a dit, écoute, moi, je ne peux pas t'aider. Je dis, aide-moi, parce que tous ces livres qui sont faits pour connaître les traits de caractère et qu'en général, on a besoin de mesurer quand on embauche quelqu'un pour voir si les gens peuvent travailler ensemble. Ces livres sont extrêmement compliqués. Je me suis dit, si je me plonge là-dedans, j'en ai pour 2 ans avant de trouver mon chemin. Elle m'a dit, non, moi, je ne vais pas pouvoir t'aider, mais j'ai quelqu'un. Et à mon avis, tu vas bien t'entendre avec lui. Et ce monsieur est, d'une part, un photographe amateur, il prend de très belles photos, et d'autre part, un grand, grand amateur de fleurs. Et il a développé une technique avec des panneaux. Il est venu avec 2 énormes panneaux, 144 photos de fleurs. Et il vous pose des questions, et vous prenez une fleur. Qu'est-ce qu'il y a de plus innocent qu'une fleur? Donc, vous prenez une fleur et voilà. Et en fait, c'est ce qu'on appelle des tests de projection. Ça existe en marketing avec des voitures, avec des chiens, etc. Et tout. Mais j'avais jamais vu ça avec des fleurs, pas avec 144 fleurs. Et il a commencé à me raconter des tas de choses sur moi. Je me suis dit, non, Bible, elle a été bien briefée par ma membre du fan club. Et puis, il m'a sorti quelque chose sur moi que personne dans ma vie ne m'avait jamais dit. Ni mes parents, ni mes amis, ni mes enfants, ni ma femme, personne. Même moi-même, je ne m'étais jamais dit de moi-même. J'ai dit non. Puis j'ai fait comme ça un pied, j'ai renié 3 fois. 3 fois, j'ai dit non. Et la 4e fois, c'est moi qui suis revenu. J'ai dit, tu as raison, ce truc-là, personne ne m'a jamais dit. Et j'ai dit, ça, c'est ton truc de fleur qui... Et il me dit, oui, ça vient là-dedans. J'ai dit, non, Pip, ça, c'est puissant. Et en fait, on a développé un outil qui part donc de ces fleurs et qui permet... En fait, j'ai 5 pages. Sur les pages, en fait, il y a à chaque fois 9 photos, je crois. Et il faut en choisir 2 par page. Et je mets ça dans mon ordinateur. Et en fait, j'ai les traits de caractère d'une personne que je n'ai jamais vue. Uniquement les traits de caractère positifs. On a tous un côté un peu sombre. Ça fait partie d'une individualité. Moi, c'est le côté lumière qui m'intéresse puisque c'est mon métier. Et je voulais d'une part que ce côté lumière, qui n'est pas, mettons, si ceci, c'est le continuum des traits de caractère, qui n'est pas des gros trous d'une part. Et d'autre part, que si mes deux mains sont des traits de caractère, ça se ressemble trop, ça se ressemble trop, ça va. Donc il fallait que les traits de caractère soient suffisamment distincts. Et au départ, on est arrivé à 12 traits de caractère, puis on est arrivé à 9. Et ça, c'était la première étape. Et en fait, j'ai réussi à faire des portraits miroirs de personnes sur base de 2 traits de caractère qu'on choisissait comme étant les plus puissants. J'ai essayé sur 3, c'était trop complexe, c'était pas intéressant. Parce que le but, c'est quand je vous montre la photo abstraite de la personne, qui est quasi abstraite, vous reconnaissez les traits de caractère. Vous allez le dire dans vos mots, par exemple, si moi je dis têtu, vous allez peut-être dire obstiné. Mais têtu, obstiné, c'est la même chose, quoi. Mm-hmm. Donc voilà, il faut pouvoir reconnaître les traits de caractère, ça c'est le but. C'est le but, c'est que le spectateur puisse revoir. Et donc j'ai créé des portraits, ce que j'appelle portrait miroir. Alors portrait miroir, il est double, c'est 2 photos différentes. C'est une photo en noir et blanc qui est très glamour, cinéma, années 50, noir et blanc. Avec quelque chose de particulier, c'est que j'aime bien mettre les 2 mains en scène. Parce que quand on met une main, on peut encore faire n'importe quoi avec une main. Mais 2 mains, il faut les placer, ça veut dire quelque chose. La façon dont tu utilises ces mains veut dire quelque chose. Alors ça, c'est la partie de gauche. La partie de droite, c'est ce fameux portrait qui exprime 2 traits de caractère, qui est un espèce d'ADN de personnalité, un ADN de partie positive de personnalité. Et en fait, c'est le visible et l'invisible. C'est le temporel et l'intemporel. C'est le trait physique et c'est la personnalité. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça le portrait miroir. Et ce portrait miroir, j'ai perfectionné ça avec la même personne. On est arrivé plus loin où maintenant, on renforce ça avec une photo abstraite. La partie de droite, on renforce ça avec une seconde photo abstraite, qui est une photo abstraite à moi, qui renforce les traits de caractère de la personne. Et en plus de ça, on est arrivé à encore quelque chose de plus sophistiqué, on va dire, sans rentrer dans les détails. Et donc, ça va encore plus loin. Et j'ai... Un de mes rêves, c'est de travailler sur les femmes d'influence et de pouvoir. Voilà. J'aimerais bien travailler, faire mes portraits miroirs en travaillant sur le thème des femmes d'influence et de pouvoir.
Christophe, vous pouvez appeler Elisabeth d'Angleterre, s'il vous plaît, pour voir si elle est disponible. Yves Lenz prend l'avion directement après.
Maggie Thatcher, c'est trop tard.
Oui, parce qu'on vend tout aujourd'hui. On vendait ses affaires aujourd'hui. J'étais chez. Je voulais vous demander, si on veut découvrir vos œuvres, etc., est-ce qu'il y a un site internet où on peut déjà voir des choses?
Oui, j'ai un site internet donc, pour tout ce qui est photographie abstraite, donc c'est www.tracker, donc TRAQUEUR, lumière au pluriel sans accent, .com. Ça, c'est les photos abstraites, donc trackerlumière.com. Et les portraits, c'est www.yves, donc YVES, ULENS, U2LNS, portrait au pluriel, .com.
En un mot aussi.
Oui,
en un mot. Yves ULENS, portrait, en un mot, ça c'est
avec
les...
S, portrait avec S.
Voilà, portrait avec S. Donc, www, tracker de lumière, en un mot, lumière au pluriel, .com. Et Yves Ulens, portrait Com également, oui. Deux sites où on peut découvrir. Dans votre actualité, est-ce qu'il y a une expo prochaine ou pas tout de suite
Mais j'ai eu beaucoup de chance, j'ai une année très très, très active. Maintenant, ma priorité avant tout, c'est de changer mon site internet. Parce qu'un site internet vieillit, le mien a 8-9 ans, et ne reflète plus du tout ni mon actualité, ni mon style et tout. Donc là, je suis fort concentré avec une petite équipe. Et j'ai eu beaucoup de chance. La dernière actualité était plus qu'heureuse parce que j'ai eu la chance d'avoir un grand format qui a été exposé chez Christie's, une vente chez Christie's, en fait, lors de Paris Photo, qui est en fait l'équivalent de notre mondial de la photo. Et bon, c'est un peu, pour moi, c'est un peu un honneur. C'est un peu comme si j'étais tennisman, c'est un peu comme si pour la première fois j'avais fait Wimbledon. Donc c'était une grande émotion pour moi. Voilà.
Est-ce que j'ai, juste avant de vous laisser, parce qu'on va laisser la parole aussi à Isabelle, est-ce que j'ai bien vu que, c'est sur votre site, que j'ai vu qu'il vous propose ici des tables.
Oui, avec c'est tout nouveau.
Oui, c'est tout nouveau, c'est ça. Donc peut-être vite, brièvement expliquer, parce qu'une table en photo.
Oui, en fait, j'ai travaillé avec un jeune designer belge qui est extraordinaire, qui est un ferronnier d'art, qui s'appelle Hugues Doutremont. Et il a créé le modèle de la table qui est très, très épurée, qui est essentiellement en acier. Et en fait, sur la base de cette table, c'est une photographie abstraite. Et chacune de ces photos représente, pour moi, la quintessence d'une ville. Donc, l'ensemble des tables s'appelle Destination. Et j'ai créé Destination Paris et Destination Berlin, qui sont les deux premières. Et normalement, les prochaines destinations seront d'autres continents. Donc, ça risque d'être probablement l'Australie, probablement les États-Unis, je ne sais pas encore lequel premier.
Moi, j'ai une toute dernière question. Oui. Quelle est la photo que vous rêveriez de faire ?
Ah, peut-être la reine d'Angleterre en portrait. Ça serait extraordinaire.
C'est une bonne transition pour Isabelle.
Elles se sont connues, elles ont le même âge. Isabelle Califis, dans quelques instants, pour nous annoncer pour sa chronique littéraire. Merci, Vulens, d'avoir pris le temps de venir de Bruxelles jusqu'à Liège pour nous présenter votre œuvre. Donc, je rappelle, traqueurdelumière.com ou yvulensportrait.com à découvrir donc votre art. Merci à vous d'être passé par nous. Et puis, votre jingle, Isabelle, et puis ça va être à vous.
C'est l'heure du goûter, la chronique littéraire d'Isabelle Califis.
Voilà, un joli titre, comme une épingle de nourrice. Il s'agit d'un livre donc qui est écrit par Georges Arnaud Kupens, qui est donc de la famille du fameux chanoine Kupens que nous avons connu ici à Liège, qui a été un intellectuel de grande envergure, qui a fait trembler d'ailleurs pas mal d'étudiants au séminaire, et qui donnait aussi des cours de religion chez nous, mais qui au collège était considéré comme une personnalité extraordinaire, et ça lui plaisait assez, je dirais, les coulants en soir que nous lui portions. Il avait une voix de stentor, donc le premier contact a été un contact de fou rire, parce que les élèves, évidemment, entendant cette voix résonner dans la chapelle de l'école, se sont mis à rire. Et ça a commencé donc par un choc, ces relations. Mais petit à petit, il s'est vraiment apprivoisé à l'école. Il a beaucoup aimé donner les cours de religion. Il entraînait vraiment aussi bien les religieuses qui venaient l'écouter dans sa philosophie. Et c'est donc quelqu'un de sa famille qui écrit ce livre, comme une épingle de nourrice, Georges Arnaud Kupens. Lui, il s'appelait Marcel Kupens. Et il était, si vous interrogez des prêtres qui ont entre 50 et 70 ans, ici dans le diocèse de Liège, ils ont certainement des souvenirs remarquables. Et moi, ce que je trouve le sommet de sa vie, c'est qu'il est mort d'une crise cardiaque à Athènes. Il était parti en voyage avec les jeunes de l'école et tout à coup, il s'est évadé, il est parti. Et ça a marqué beaucoup toutes les personnes qui le côtoyaient à ce moment-là, qui suivaient ses cours. Et le livre, je dirais, c'est un petit peu des accents qu'on connaissait moins de ce fameux Marcel Kupens, chanoine. Et lui, il avait prédit au moment où, évidemment, il y avait le fascisme, il y avait le grêle, il y avait l'Allemagne, il y avait l'Espagne, il y avait tout ce qui se passait mal. Eh bien, lui, il avait prédit que, en effet, ça allait exploser. Et ça a bien explosé. Et il y a une anecdote aussi qui est très belle c'est que probablement il a été amoureux d'une jeune femme. Et l'objet, je dirais, qui a été le lien, je dirais, entre cette jeune femme et lui, c'est ce qu'on appelle le fameux pendule, là, le fameux pendule de Foucault. Mmh. Cette histoire donc a touché beaucoup mes anciennes élèves, parce que c'est grâce à elles que j'ai obtenu ce livre. Elles me l'ont plutôt offert. Parce qu'elle trouvait que le temps et les hommes qui passaient donc dans la ville de Liège à cette époque étaient vraiment des gens remarquables. Ça l'a beaucoup touchée de l'avoir connue, et c'est ainsi qu'elle a offert ce livre, donc qui s'intitule « Comme une épingle nourrice ». Et c'est d'un membre de la famille du Marcel Kupens, Georges Arnold Kupens.
Merci Isabelle Califis, nous arrivons déjà au terme de notre magazine en direct depuis 16h30 sur SF Liège. Merci à chacune et chacun d'entre vous. On vous retrouve de toute façon ce jeudi pour de nouvelles aventures cinématographiques cette fois. Yves Lens encore, merci d'être passé par notre
plaisir.
Studio. Et puis on se retrouve de toute façon demain 16h30 pour de nouvelles aventures. Au revoir.
Au revoir.
C'était l'heure du goûter sur RCF Liège. À retrouver dès demain 16h30. D'ici un peu moins de 2 minutes, ce sera l'information régionale en compagnie de Régine Kersmann. Mais avant ça, un petit peu de musique avec Overphonic Sometimes.